France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Et c'est l'heure de retrouver Racontez-moi l'écho, votre rendez-vous hebdomadaire qui entremêle l'économie et la fiction. Chaque semaine, nous choisissons un roman, un film, une série qui nous parle d'économie à leur manière. Aujourd'hui, entrons dans le cœur et la tête de Yongle, un paysan chinois de 24 ans, le héros du roman de Moyan, La Joie.
L'eau tranquille ressemblait à un miroir de bronze plaqué d'or pâle. Ton reflet oblique s'allongeait parmi les algues sinueuses et les petits poissons noirs. Tu ne voulais pas le voir. Combien de fois t'étais-tu imaginé sous les traits d'un étudiant talentueux et distingué, au teint clair, aux lèvres vermeilles, aux cheveux bien coiffés, aux sourcils d'un noir d'encre, un stylo à plumes de la marque Étoile Dorée et un stylo à billes trois couleurs dans la poche de ton uniforme bleu délavé. L'image que te renvoyait l'eau de la rivière, impitoyablement, réduisait à néant l'idole de tes rêves. L'année dernière, ton frère aîné avait violemment souffleté ton visage décharné. Tu as regardé ton long visage réduit à une bande étroite, aux sourcils courts, noirs et épais, pareils à deux cosses de poids, aux lèvres retroussées de bouc en rut, découvrant une rangée de dents d'un noir d'encre tel qu'en ont les campagnards du Nord-Est, avec, juste au-dessus de la bouche, quelques dizaines de poils épars et désordonnés.
Bonjour Chantal Chenandreau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Vous êtes maîtresse de conférence honoraire à l'Université Paris 7 Diderot et vous avez traduit de nombreux romans du prix Nobel de littérature Moyan. La Joie, publié en Chine en 1987, raconte donc le quotidien de Yongle, fils de paysan pauvre du Shandong. Yongle qui rêve d'entrer à l'université. Ce personnage, en réalité, c'est Moyan lui-même, Chantal Chenandreau.
Écoutez, Moyan, en fait, vient, son statut social est celui d'un paysan moyen pauvre, mais il est tout en haut de cette catégorie. Or, seuls les paysans pauvres et moyens pauvres pouvaient entrer dans le cycle secondaire. Moyan, pendant l'évasion culturelle, a usurpé le droit de se révolter. Mao avait dit « il faut se révolter ». Il a accusé des professeurs et il a été exclu de l'école étant donné son statut social. Alors, il ne rêvait pas d'université, il voulait, lui, continuer... Il en avait à peine fini l'école primaire, il voulait continuer, simplement. Mmh. Alors ensuite, eh bien, il a été paysan pendant 10 ans, et la seule solution pour lui était d'essayer d'entrer dans l'armée. Il a essayé plusieurs fois, et il a réussi in extremis en 1967, alors qu'il avait 21 ans. Et là, ça a changé sa vie complètement. Donc, en fait, pour sortir de la condition de paysan, il n'y avait pas que l'entrée à l'université, il y avait aussi la possibilité d'entrer dans l'armée. Parce qu'en Chine, comme en URSS, l'armée peut aussi a aussi des classes pour former des écrivains et des artistes. Et comme Moyan avait entendu dire que quand on était écrivain, on pouvait gagner beaucoup d'argent et surtout manger à sa faim, parce qu'il a énormément souffert de la famine, pendant la période 58-62, il dit que lui-même a mangé du charbon, il a mangé des écorces d'arbres, des racines.
Et c'est un autre point commun avec son personnage, justement. Yongle, on entendait dans ce texte, visage décharné, long visage réduit à une bande étroite. Il y a cet imaginaire de la faim et de la pauvreté qui est très présent dans La Joie.
Ah oui, oui, bien sûr. Mais Moyan, lui, parle plutôt du ventre gonflé des enfants, parce qu'il était enfant à l'époque, il est né en 1955, et c'est vrai qu'il a énormément souffert de la faim. Il dit d'ailleurs que la solitude et la faim sont les moteurs de sa création littéraire.
Et vous dites que l'université n'est pas le seul moyen d'échapper aux travaux manuels dans les champs, ça a été le cas. Moyan, lui, a réussi à s'en échapper, mais dans La Joie, c'est vraiment l'obsession de jongler, réussir cet examen d'entrée qui lui permettrait de fuir cette campagne haïe.
Oui, alors Moyan aussi, hein, il n'en pouvait plus de ce statut de paysan, comme il dit, travailler le dos vers le ciel et le nez vers la terre. Et en plus, la situation dans le Shandong, pendant ce qu'on appelait la période difficile, la famine, était catastrophique. Hein. Et il raconte que même en une journée, 18 personnes sont mortes dans son village.
C'est donc la période de la grande famine entre 1959 et 1961.
C'est ça.
Oui, voilà, pendant la période, un petit peu après un peu avant la période du grand bond en avant.
Ah, c'était en même temps, pratiquement. Mm. Non, c'était concomitant. C'était même, la famine a été une conséquence du grand bond en avant. Puisque les paysans, les paysans ont été réquisitionnés pour des travaux collectifs de voirie, des travaux hydrauliques. On a densifié les cultures, on a fait de la surenchère sur les taux de rendement, on a collectivisé les terres, on a supprimé les lopins individuels et tout allait à la commune populaire. Donc c'était un système qui détruisait la famille en tant qu'unité économique. Tout était envoyé aux communes. Les outils, les ustensiles familiaux, le fourneau, tout ce qui était personnel pour créer des petits fourneaux. On fabriquait de l'acier de très mauvaise qualité et même le bois et les fenêtres des maisons partaient pour alimenter le feu des petits fourneaux.
Et alors justement, Moyane évoque la campagne des quatre nuisibles lancée en 1958 et qui visait alors à éliminer les rats, les mouches, les moustiques et les moineaux. Conséquence, les champs furent noyés sous les pesticides.
Bien sûr, mais de toute façon, les pesticides, oui.
Avant que la rosée du matin ne fût évaporée, l'insecticide revêtait le vert sale des feuilles de soja d'un rouge sombre du plus bel effet. Tu avançais d'un pas chancelant, les jambes éraflées par les tiges piquantes. Le 666, après avoir effleuré les feuilles, s'envolait aussitôt vers le ciel, en volute, en t'enveloppant de champignons de brume laiteuse. Tu marchais au milieu des nuages empoisonnés que tu avais produits toi-même, n'osant ni respirer ni ouvrir les yeux, uniquement préoccupé de presser le piston, avançant en titubant animé du seul désir de tout anéantir autour de toi. Puis tu ressentis une crampe dans la main. Tu diminuas le rythme, tu ralentis le pas. La sueur, en sortant des pores, rencontrait immédiatement l'insecticide. Apeurée, elle n'osait plus se montrer. Le produit puissamment corrosif pénétrait profondément les téguments, attaquant tes nerfs. La souffrance se propageait à travers ta peau jusqu'au plus profond de ton être. Le frottement de la courroie sur ton cou, du bidon sur ton ventre et des tiges de soja sur tes jambes redoublait la douleur. Le nez bouché, la respiration difficile, tu ouvrais grand la bouche pour mieux reprendre ton souffle. Le poison en profita pour envahir ton organisme, irritant ta gorge. Les larmes se mêlèrent au 666 pour brûler tes yeux, toi qui avais déjà les cils si rares. Malgré la douleur qui te transperçait comme une aiguille, tu ressentais de la joie jusqu'au tréfonds de ton cœur. De la joie, de la joie, de la joie. Si tu n'explosais pas de joie, tu en mourrais.
Chantal Chenandreau, ce sont les bouleversements de la Chine rurale et notamment la pression du productivisme agricole que Moyane cherche à dépeindre avec son habituel humour corrosif.
Oh là, écoutez, pour moi le mot pesticide, bon, je crois que ce roman est pour lui en fait une sorte d'un exutoire, une catharsis à la recherche d'une existence autre qui le satisfasse en fait. Et là, il est en train moi je trouve qu'il il présente le pesticide comme quelque chose d'assez magique finalement, mais en fait quand on sait que que beaucoup de paysans ou de femmes qui voulaient échapper à l'avortement ou employaient cette méthode pour se suicider, donc pour moi c'est pas quelque chose de...
Mais il y a beaucoup d'ironie dans cet extrait.
C'est peut-être de l'ironie, je ne sais pas, mais cette souffrance, bon. Dans beaucoup de romans de Moyane, on trouve des personnages qui prennent soit de la mort au rat, soit des pesticides, et qui se suicident, qui en meurent. Et il y en a énormément, presque dans tous les romans, mais beaucoup. Donc pour moi, le mot pesticide, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable, quoi. C'est de la souffrance aussi. Le fait de d'appuyer comme ça sur sa pompe et d'envoyer des insecticides, c'est assez jouissif finalement, parce que, voilà, il essaie de sublimer tout ça, il me semble. Enfin, peut-être que je me trompe.
Et ce qui est également omniprésent dans l'œuvre de Moyane, c'est la critique de la corruption. Il y a notamment ce voisin qui lui parle de son fils adoptif devenu secrétaire du Conseil des Affaires d'État. Il y a toujours cette critique qui transparaît dans son œuvre, Chantal Chenandreau.
De toute façon, Moyane dit que la littérature n'est pas liée aux politiques, elle n'est pas subordonnée aux politiques, mais elle critique les côtés les plus sombres du politique, de la société, de l'individu. Donc là, enfin, la corruption, c'est quelque chose en Chine qui a toujours existé, hein, sous l'Empire aussi, qui existe encore. Et je crois que c'est le roman Le Pays de l'Alcool qui est le plus représentatif de ce phénomène de corruption, parce que c'est vraiment, Moyane montre la décadence du genre humain et la haine qu'il a des fonctionnaires corrompus. Et là, quand on est bien placé, quand on a de l'argent, On peut payer les amendes pour le planning familial, pour le, quand on fait trop de gosses. On peut avoir une seconde épouse. On peut, avec des pots de verre, on arrive à tout, hein. C'est ce qu'on appelle en chinois la porte de derrière, hein.
Alors, et justement, sur le planning familial, pardon de vous couper, Chantal Chenandreau, c'est également quelque chose que Mouyane dénonce très fortement, cette brutalité du planning familial chargé de faire respecter la politique de l'enfant unique dans les villages. Je vous propose d'écouter un dernier extrait.
Qi Wenliang, s'écria le président du comité. Il paraît que ta femme a mis au monde un troisième enfant ?
Non, répondit-il, ce n'est pas vrai.
L'autre, avec un geste de la main. Nous allons faire un petit tour chez toi pour voir.
Ton frère écarta les bras pour lui barrer la route.
Bon, je reconnais. Le président du comité de village reprit. Nous recherchons en ce moment dans le district des cas typiques de non-respect du planning familial. Tu feras parfaitement l'affaire.
Je ne suis pas le seul à être père de trois enfants, répliqua ton frère.
Pourquoi me choisir comme exemple ?
Il n'y va pas de ma volonté, mais de celle du district, dit le président du comité. La femme à la poitrine généreuse lui glissa un regard désapprobateur.
Qi Wenliang, dit-elle. Inutile de gaspiller ta salive. Le planning familial est une politique fondamentale du pays, qui encourage la naissance d'un premier enfant, déconseille celle d'un deuxième et interdit celle d'un troisième. Selon les directives provinciales, il faut réduire à tout prix le taux de croissance de la population. Selon les instructions du district, tous les moyens sont bons. Il n'y a pas de méthode particulière pour faire appliquer le planning familial. Toutes les mesures sont acceptables pourvu qu'elles fassent ralentir la croissance de la population. Au niveau du canton, la naissance d'un deuxième enfant est punie par une amende de 2000 yuan. Celle d'un troisième enfant entraîne une amende de 3000 yuan assortie d'une opération obligatoire de ligature des trompes ou des canaux déférents. J'ignore quelle politique locale suit votre équipe. Tu as entendu, Qi Wenliang ?
La femme du frère de Yongle va ainsi être stérilisée de force. Et c'est un double drame, Chantal Chenandreau, car elle n'a que des filles.
Oui. Mais oui, mais en Chine, le garçon a toujours primé pour la filiation. C'est lui qui a l'héritage, c'est lui qui rend le culte aux ancêtres. Et c'est très profondément ancré dans les mentalités chinoises. Or, à la campagne, on a besoin de bras quand même assez solides, hein. Donc, au début de la République, le planning familial était très peu coercitif. Et puis même Mao avait demandé qu'il y ait beaucoup d'enfants. Donc, c'était plutôt de 66 à 69, c'était pendant la Révolution culturelle, une politique anti-malthusianiste. Mais en 1970, est apparu un slogan. 1, ce n'est pas peu. 2, c'est ce qu'il faut. 3, c'est un peu trop. Un de trop. Donc, de 1960 à 1979, avec la politique un peu relaxe, lâche, on est passé de 500 millions d'habitants à 1 200 000. Mmh. 1 200 000 000. Et puis ensuite, il y a eu la politique de l'enfant unique, avec des aménagements pour les paysans. Si un paysan avait un deuxième enfant et que le premier était une fille, ou bien si les deux parents étaient enfants uniques eux-mêmes. Puis ensuite, seulement si un parent était enfant unique. Jusqu'à 2015, où on a décidé que deux enfants, etc.
Bon. Un grand merci. Oui. Un grand merci. Oui. Malheureusement, c'est la fin de cette interview. On aura encore beaucoup de questions à vous poser, mais on arrive au bout. Merci Chantal Chenandreau de nous avoir fait découvrir ce superbe roman de Mouyane, La Joie. Merci à Aliette Ovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho qui a pris en charge toutes les lectures.